France Culture.
La démonstration. On a une complexité qui est niée. Écoutez nos débats publics, c'est toujours simple. Tous les gens qui se collent au réel, tous les gens qui exercent des responsabilités savent que ça n'est jamais simple. C'est toujours compliqué, le droit est compliqué, le budget est compliqué, le réel est compliqué. Alors évidemment, quand on arrive et qu'on dit c'est simple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'observe qu'on peut à la fois tout dire aujourd'hui et quand même subir la police de la pensée. On vit dans un monde où on peut quasiment tout dire, et parfois des horreurs, des contre-vérités manifestes. Et pourtant, nous vivons aussi, c'est le même monde, dans un monde où vous avez la cancel culture, le wokisme, qui peut vous tomber dessus en vous disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ».
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des Rencontres de Pétrarque, et à vous, spectateurs et spectatrices assis dans la splendide cour du rectorat de Montpellier, pour cette 39e édition en direct et en public sur le thème réapprendre à se parler, ré et se étant entre parenthèses. Deuxième temps de notre semaine entamée hier par le constat d'une parole qui ne va plus et de l'urgence à la réparer. Aujourd'hui, c'est de cette parole qu'on dit empêcher qu'il va être question, de cette liberté d'expression qui nous est si chère, mais qui n'a jamais paru aussi confuse, aussi disputée, aussi fragile. Mais plutôt qu'un énième débat contradictoire sur le « on ne peut plus rien dire », nous avons opté pour un dialogue entre un sociologue et une linguiste, histoire de tenter de mieux comprendre pourquoi on a mal à notre liberté d'expression, où nous en sommes réellement entre censure et absence de contrôle, et pourquoi cette liberté est si malmenée de tous côtés, entre les personnes qui considèrent que l'âge d'or est derrière nous et que la parole est étouffée, voire censurée, et les individus qui estiment qu'on laisse dire trop de choses aujourd'hui, sans oublier ceux qui pensent que tout le monde n'a pas la même liberté de parole dans notre démocratie. Alors, une liberté d'expression corsetée ou débridée? Où placer le bon curseur? Nos deux invités ont chacun publié un livre sur la question en cette année 2025 pour faire le point, preuve du besoin de prendre un peu de recul sur ce sujet. Arnaud Esquéré, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, il est 18h20, oui, j'hésitais.
J'ai l'impression que c'est le début de la journée.
Un
ici
peu,
à
il fait très beau, il fait très clair, et en plus on peut écouter cette émission quand on veut, quand on n'est pas en direct nécessairement. Alors je dis bonjour, qui marche pour tout.
Bonjour.
Sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Le livre que j'ai évoqué à l'instant s'intitule « Liberté, vérité, démocratie ». Il a paru chez Flammarion. À vos côtés se trouve Anna Arzoumanoff. Bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférence, vous avez le droit de dire bonsoir, maîtresse de conférence en linguistique et littérature française à Sorbonne Université. Vous êtes co-responsable de la chaire du CNRS Colibex. C'est quoi Colibex?
C'est la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression.
Et le livre que j'ai mentionné s'intitule « Juger les mots ». Deux points, liberté d'expression, justice et langue. Il a paru chez Actes Sud. Vous avez peut-être reconnu l'homme qu'on a entendu au tout début de cette émission, c'était Édouard Philippe. Et l'idée de mettre ce son pour ouvrir cette deuxième émission sur les cinq temps qui sont les nôtres cette semaine, c'est de faire une sorte de droit de suite. Hier, dans la première émission, l'un de nos invités, Clément Witkorowicz, insistait beaucoup sur le mensonge aujourd'hui en politique et l'ère de la post-vérité. Et la vérité, c'est au milieu du titre de votre livre, Arnaud Esquéré, « Liberté, vérité, démocratie ». C'est donc une partie importante de la question. En quoi liez-vous la vérité à la liberté d'expression? Est-ce que c'est parce que les politiques, pour revenir à eux, se permettent aujourd'hui de dire tout et n'importe quoi et que c'est le cœur du problème ou pas du tout?
Alors, D'abord, je voudrais dire, parce que souvent, physiquement, bien sûr, les auditeurs ne peuvent pas le savoir, on me confond avec Édouard Philippe parce que j'ai le crâne rasé et la barbe, que je ne suis pas Édouard Philippe, et donc que je dirais précisément l'inverse, c'est-à-dire que on ne peut pas tout dire, contrairement à ce qu'il dit, parce qu'il y a des limites à la liberté d'expression, mais peut-être qu'on y reviendra. Et sur la question de la vérité et du mensonge que vous posez, j'aimerais dire cette chose, c'est que le principe d'une démocratie libérale, c'est que puissent coexister des énoncés vrais et des énoncés faux, c'est-à-dire à la fois des énoncés qu'on tient, qui sont pour la vérité scientifique, et puis d'autres qui sont totalement faux, et c'est d'ailleurs le principe de la tolérance religieuse. Alors, cela étant dit, donc une démocratie qui fonctionne bien, une bonne démocratie libérale, ça devrait être une démocratie dans laquelle on ne doit pas trop s'inquiéter qu'il y ait des mensonges. Mais il y a un endroit plus particulier qui est la vie politique et les opinions politiques. Pourquoi ? Parce que, précisément, le principe de la démocratie libérale, fondée sur la liberté d'expression et la possibilité de prendre de manière égale la parole, c'est de pouvoir décider, notamment en votant, et de pouvoir décider sur ce qu'il se passe actuellement et sur le projet de société qu'on veut choisir. Et pour pouvoir faire cela, il faut pouvoir le faire à partir d'énoncés vrais. C'est pour ça qu'en fait, on a une exigence particulière à avoir vis-à-vis des femmes et des hommes politiques et de ceux qui participent à la vie politique, et aussi pour chacune et chacun d'entre nous, quand on prend la parole pour commenter ou discuter de la vie politique, on a une exigence à avoir à ce que les énoncés soient vrais. Voilà.
Vous disiez que vous alliez être en désaccord avec Édouard Philippe. En même temps, Édouard Philippe reprend la contradiction qui est à la base de votre ouvrage, Arnaud Esquéré, puisqu'il dit « Aujourd'hui, on peut à la fois tout dire et on a la police de la pensée ». C'est à peu près ce qui est au fondement de votre livre, puisque vous partez d'une contradiction. Souvent, on entend, et en particulier cette année, c'est peut-être pas pour rien, encore une fois, que vous avez tous les deux publié un livre cette année, on entend souvent qu'on ne peut plus rien dire, et pourtant, les fake news prolifèrent, et ça, les fake news reviennent à l'idée de liberté, de vérité, et le fait qu'elles prolifèrent montre bien qu'on peut dire n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est cette contradiction qui vous a permis aujourd'hui d'écrire ce livre ?
Oui, c'est-à-dire, cette contradiction, elle est tout à fait étonnante parce que l'idée... alors, effectivement, c'est « on ne peut plus rien dire ». Donc, c'est la deuxième partie de la phrase d'Édouard Philippe. Alors, la question, évidemment, qu'on faut se poser, c'est « on ne peut plus rien dire par rapport à quand ?» Et là, tout d'un coup, quand on dit ou quand les gens vous disent « on ne peut plus rien dire », vous leur dites « par rapport à quand ?» Alors, ils disent bah, « par rapport à avant ». Alors, mais par rapport à avant, c'est quand avant ? Alors, bah, par rapport aux années... 80, 70, alors vous dites, mais attendez, dans ces années-là, on pouvait dire encore moins de choses. Et en fait, quand on dit on ne peut plus rien dire, on sous-entend qu'on pouvait s'exprimer beaucoup plus auparavant sans réfléchir à quelque chose qui est l'histoire, en fait, de la liberté d'expression et l'histoire de la censure en France. Et on a oublié quelque chose qu'on peut appeler la censure institutionnelle, au sens où bien ça pouvait être l'État ou l'Église catholique, qui était beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui exerçait une censure, notamment pour un art en particulier qui est le cinéma, qu'il a exercé jusqu'en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a dit « désormais, il n'y a plus de censure », et qui pouvait interdire complètement des films, et des films qui nous paraîtraient aujourd'hui, on se dit « mais comment ce genre de film a pu être interdit ?» Je prendrai un exemple, qui est un exemple des années 60, qui est « La religieuse de Rivette », qui a été totalement interdit, et... Peut-être que certaines et certains qui nous écoutent ou qui sont présents et présentes ici l'ont vu. Et il faut se dire, mais comment ce film a pu être interdit parce qu'il heurtait les sentiments des personnes qui auraient pu le voir.
Arnaud Esquéré met le doigt à Arnaud Azoumanov sur un point important qui est le fait qu'il existe des limites, des règles. Alors, plus nécessairement la censure institutionnelle, peut-être d'autres formes de censure, peut-être des autocensures, on y reviendra. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le problème n'est pas en France qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'en France, de toute façon, on ne peut pas tout dire, parce que cette liberté d'expression, elle est encadrée, limitée, réglementée.
Oui, je crois que c'est important de savoir sur quoi, de quoi on parle quand on parle de liberté d'expression, parce que avant de faire un constat, il faut quand même essayer de définir la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, un principe constitutionnel, donc qui est protégé dans notre constitution française, mais également aux États-Unis. Et ce qu'il faut rappeler, me semble-t-il, avant d'aborder la question des limites, c'est qu'il y a deux conceptions de la liberté d'expression qui, en ce moment, se heurtent. Une première conception, qui est la conception américaine. Donc, la conception américaine qui est fondée sur le premier amendement de la Constitution américaine, qui proclame la liberté de la parole, et qui a fait l'objet d'une interprétation de plus en plus libérale au cours du XXe siècle, c'est-à-dire depuis à peu près la guerre du Vietnam, il y a eu un arrêt très important de la Cour suprême qui a élargi et qui a donc interprété ce premier amendement de la façon la plus large qui soit pour autoriser la critique de la guerre du Vietnam. C'est à ce titre ensuite qu'on a autorisé aux États-Unis, par exemple, des discours de haine du Ku Klux Klan. Donc c'est tout à fait autorisé aux États-Unis. Donc il faut vraiment comprendre cette interprétation libérale dont sont héritiers un Donald Trump, un Elon Musk, mais également Mark Zuckerberg, etc. Donc ça, c'est cette interprétation libérale. Autrement dit, il y a des limites à la liberté d'expression aux États-Unis, mais qui sont assez réduites. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier. En revanche, les discours de haine sont autorisés. Et c'est ce qui fait la différence majeure avec notre droit européen. Et maintenant, je vais parler de la France, hein, mais la France, je l'inclus dans cet ensemble qu'est l'Europe. Donc en France, il y a bien une liberté d'expression qui est protégée par une grande loi, qui est la loi de 1881, donc qui protège la liberté d'expression et qui affirme la protéger, mais en même temps tout en prévoyant quelques limites à cette liberté d'expression. Et donc les limites à la liberté d'expression en France, du point de vue de cette régulation juridique, elles sont à la fois les mêmes qu'aux États-Unis, l'injure, la diffamation, mais la grande différence, c'est la sanction des discours de haine. Et les discours de haine, c'est un vaste ensemble qui n'est pas défini par le droit. Et je pense que ce sera intéressant de revenir sur ce qu'on entend par discours de haine. Mais c'est tous ces discours dont on estime qu'ils sont nocifs pour la démocratie et qu'ils empêchent le bon exercice justement de la liberté d'expression. Donc c'est assez paradoxal, mais dans cette conception européenne de la liberté d'expression, il faut limiter pour avoir une meilleure liberté d'expression.
Alors, c'est une notion qui est proche de la liberté fondamentale, avez-vous dit. C'est aussi une notion historique, au sens où, selon les contextes historiques, politiques, sociaux, cette définition change, elle est aussi mouvante. Vous, par exemple, Anna Razoumanoff, vous êtes spécialiste de la liberté d'expression sous l'Ancien Régime. Alors, on va peut-être pas faire l'histoire depuis l'Ancien Régime, mais malgré tout, est-ce que vous nous diriez s'il y a des choses qui, fondamentalement, ont changé entre l'Ancien Régime et aujourd'hui?
Alors évidemment, le régime politique n'est pas le même, donc c'est difficile de comparer l'Ancien Régime et maintenant, puisque en fait, j'étais spécialiste plutôt de la censure que de la liberté d'expression, donc ce qui est quand même l'inverse. En revanche, on voit bien qu'il y a, sous l'Ancien Régime, l'injure et la diffamation étaient déjà sanctionnées, hein, donc ça, c'est vraiment très proche. Mais la question des discours de haine, c'est quelque chose de beaucoup plus récent que l'Ancien Régime. Il faut savoir qu'en France, les discours de haine sont poursuivis depuis 1972, seulement, puisqu'il y a une grande loi qui s'appelle la loi Pleven, qui a été promulguée, qui permet de lutter contre les discours de haine.
Discours de haine d'un côté, mais aussi peut-être caricatures religieuses de l'autre, puisqu'on sait qu'en France, les débats ont été ravivés par des caricatures. Est-ce qu'en principe, la liberté d'expression doit respecter les convictions individuelles?
Alors oui, ça, je crois qu'il faut vraiment comprendre. Donc moi, je me suis intéressée aux critères du droit dans mon travail de recherche. Donc du point de vue des critères du droit, on a le droit de critiquer une religion. On a le droit de heurter les opinions religieuses, donc de caricaturer
le prophète Mahomet, on a le droit, donc bien sûr on a eu en France un procès très célèbre qui est celui des caricatures de Mahomet, qui a abouti à la relaxe hein, de Charlie Hebdo, mais on a aussi le droit de caricaturer Jésus, de dire donc ce qu'on veut d'une religion. En revanche, la frontière est très claire, même si j'espère pouvoir vous le montrer, elle est claire en principe, elle est beaucoup plus difficile à appliquer. On n'a pas le droit d'appeler à la haine des croyants. Donc c'est ça la grande distinction qui est fondatrice du droit
entre
français.
Le dogme abstrait, disons, l'idée exactement. Et les individus.
Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Michel Houellebecq qui dit la religion la plus con, c'est quand même l'islam, est relaxé en 2002, là où s'il avait remplacé la religion par les musulmans, on aurait pu imaginer une condamnation.
Qu'est-ce que ça dit, ça, au sociologue que vous êtes, cette notion mouvante, Arnaud Esquerré, et contextualisante ?
Ben, d'abord, il faut partir aussi, il faut relever le fait que l'espace public, l'espace dans lequel on s'exprime, elle a lui-même beaucoup évolué et s'est beaucoup étendu. Quand je dis qu'on n'a jamais pu dire autant de choses aujourd'hui que par le passé, il y a deux choses à entendre. C'est-à-dire, premièrement, le fait que les frontières de la liberté d'expression ont reculé. Et donc, on peut dire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait dire du temps où il y avait une censure. Et voilà. Et deuxièmement, on peut aussi, au sens de pouvoir, sur un territoire qui est beaucoup plus vaste, parce que cet espace public, d'abord il s'est étendu avec la multiplication des chaînes de télévision, de radio à partir des années 80, et puis bien sûr avec l'arrivée d'Internet, eh bien vous avez un espace public dans lequel chacune et chacun peut s'engouffrer, et ça c'est totalement inédit. Donc donc c'est un des éléments de réponse en fait sur cette modification en fait de la manière dont on fait travailler et dont on modifie dans l'histoire la liberté d'expression, il tient à une transformation profonde de l'espace public. Et ça, c'est vraiment inédit comme situation.
Est-ce que Anna Arzoumanov, c'est quelque chose qui rend plus difficile aujourd'hui le travail des juges d'avoir justement autant d'espace public, en plus qui touche à la fois à la linguistique, les mots, à la justice et à la morale?
Oui, alors tout à fait. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on avait historiquement une chambre du tribunal judiciaire de Paris, la 17e chambre, qu'on appelle aussi le tribunal des mots, qui jugeait ces affaires. Donc c'est elle qui a, encore une fois, jugé les caricatures de Mahomet, dont je parlais tout à l'heure. Mais actuellement, on a de plus en plus de chambres qui se spécialisent en France. Donc par exemple, à Marseille, à Lyon, ce qui dit... l'augmentation considérable du contentieux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'expriment via les réseaux sociaux. Hein, donc c'est la raison pour laquelle, oui, on a une grosse augmentation du contentieux. Par ailleurs, on voit bien que dans ce droit, que je n'ai pas nommé ce droit de la liberté d'expression qu'on appelle le droit de la presse, mais qui ne s'applique pas qu'à la presse, hein, c'est tout discours public, les juges sont amenés à arbitrer des questions extrêmement sensibles. Est-ce que critiquer Israël, c'est être antisémite? Est-ce que critiquer l'islam, c'est être islamophobe? Donc vous vous imaginez, comme dans la société on s'écharpe sur ces questions-là, les juges ils doivent trancher. Et aussi, ils font face à des stratégies de contournement de la loi, c'est-à-dire des critères, parce qu'en fait ils essaient, tant bien que mal, d'appliquer des critères très précis. Tout à l'heure, je disais distinguer, par exemple, l'opinion d'un discours de discrimination. On a parlé de la religion. Là, critiquer Israël, c'est de l'ordre de l'opinion politique. Là où appeler à la haine des juifs, c'est interdit en France. Hein. Donc, ils essaient d'appliquer ces critères-là. Mais au regard du contentieux, c'est très difficile. Si on prend l'exemple d'Israël et du discours antisémite, on voit bien que dans le débat public actuellement, on se demande si derrière la critique d'Israël, il n'y a pas un discours antisémite. Et donc, systématiquement, les juges, dans chaque cas de figure, doivent essayer de se demander si c'est ça qui est caché derrière un discours antisioniste.
C'est là que ça devient vraiment intéressant et compliqué. Pour reprendre les mots d'Edouard Philippe, tout est compliqué. C'est que, évidemment, on se demande quels sont les critères pour que les juges puissent juger en toute objectivité. Est-ce que c'est possible? Vous prenez par exemple Anna Razoumanoff dans votre ouvrage, un mot, puisqu'on y revient souvent au mot, un mot qui est le mot bâtard. Le mot bâtard a été jugé deux fois, à deux endroits différents, à deux moments différents, et deux fois de façon totalement contradictoire.
Tout à fait. Alors là, c'est dans le cadre d'une infraction qui est l'injure, donc qui est définie par la loi de 1881. Donc l'injure fait l'objet d'une définition extrêmement lâche, c'est tout terme de mépris ou d'invective. Mais bien sûr, je pense qu'on peut tous s'entendre sur une certaine liste de mots qu'on appelle des noms d'oiseaux, c'est facile de dire qu'il s'agit d'injure. Mais dans beaucoup d'autres cas de figure, c'est au juge de décider s'il s'agit ou pas d'une injure. Donc en effet, le terme de bâtard, dans deux décisions différentes, hein, une fois, ils ont estimé que c'était un terme d'injure, et une autre fois, que ce n'était pas le cas. Alors est-ce que ça veut dire que les juges font n'importe quoi, qu'ils sont complètement subjectifs? Non, il faut penser qu'il y a le contexte qui est pris en compte, hein, qui est très important. Ce n'est pas seulement les mots, et on voit bien donc que décider en amont d'une liste de mots qui serait interdite en France, ce n'est pas possible. Ce sont les mots dans leur contexte qui peuvent ou pas devenir un terme de mépris par rapport au récepteur à qui qu'on injurie ou pas.
Et puis il y a des mots qui autrefois étaient injurieux et puis qui ne le sont plus, et inversement, je pense à fasciste, je pense à nazi, que malheureusement nous entendons à nouveau beaucoup. Arnaud Esquéré.
Oui, cette question en fait de savoir qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit, elle est toujours à juger au cas par cas, et c'est toujours difficile. Moi, je prendrais deux autres exemples qui vont dans le sens de ce qu'a dit Anna. L'un, c'est un exemple, j'ai travaillé sur la modération du courrier, des abonnés au Monde qui laissent des commentaires après les articles. Et en fait, vous pouvez avoir une liste de mots interdits qui fait un premier fil, qui vont être des mots considérés en quelque sorte injurieux dans la plupart des contextes, mais malgré tout, vous avez besoin derrière de quelqu'un, un humain qui lit en fait les messages pour comprendre l'interprétation qui est faite de ces mots et savoir si en fait ce sont des propos qui peuvent poser un problème ou pas juridiquement. Et ça, en fait, il y a toujours un flottement. Et je prendrai un deuxième exemple. J'ai travaillé beaucoup sur la commission de classification des films. Donc là, il s'agit en fait de priver un public, qui est le public le plus jeune, de la possibilité de voir des films dont on considère qu'ils sont trop violents ou alors il y a des actes sexuels de nature à heurter la sensibilité de ce jeune public. Et donc les membres de la commission se réunissent, ils regardent le film, et puis ensuite ils discutent, et comment ils font? Eh bien, ils doivent comparer les films les uns avec les autres, et il y a toujours une part d'arbitraire, de subjectif qui rentre, parce que ils raisonnent par rapport à un film qu'ils n'auraient pas dû voir eux-mêmes quand ils étaient enfants, ou à des films qu'ils ne veulent pas que leurs enfants voient ou que les enfants des proches voient. Et donc, il y a cette part-là toujours qui entre en jeu et qui peut être un peu réduite par la discussion collective. C'est vrai pour le cas des juges ou pour le type de commission. C'est-à-dire, eh bien, si on discute collectivement, on peut considérer que c'est plutôt ça le sens à donner à certains types de mots, et c'est plutôt injurieux ou c'est plutôt de nature à heurter les sensibilités. Et c'est à ce à quoi sert cette discussion collective.
Il est 18h38 sur France Culture. Vous écoutez les Rencontres de Pétrarque. Nous sommes en direct et en public à Montpellier. Nous avons un débat très apaisé, ce qui ne s'est pas entendu depuis très longtemps sur cette question de la liberté d'expression. Alors on va introduire un tout petit peu de problématique.
Dès qu'on amène des arguments, on est qualifié tout de suite de fasciste, islamophobe, homophobe, transphobe, ce qui, de fait, rend extrêmement difficile la discussion. Alors, c'est pas une censure au sens strict du terme, mais c'est une radicalisation, une brutalisation du débat qui rend très difficile l'argumentation et qui, du coup, nous amène vers des éléments totalement irrationnels qui relèvent plutôt du slogan et de l'insulte et non pas de l'argumentation. Aujourd'hui, on assiste à des atteintes à la liberté d'expression venant de la gauche radicale et du camp qu'on appelle aujourd'hui woke, disons, qui, à travers ce qu'on appelle aussi la cancel culture, la culture de l'annulation, font partie d'une culture largement héritée de l'Amérique du Nord, qui est une culture où ça n'est pas l'État qui doit restreindre la liberté d'expression, comme c'est le cas en France, où la liberté d'expression est encadrée par des lois assez précises, mais où ce sont les citoyens qui s'autorisent, via des collectifs militants, à interdire de parole ceux dont la parole leur déplaît. Et ça, c'est une forme de rapport à la liberté d'expression qui est extrêmement étranger à la culture juridique française, mais qui a été importé depuis quelques années et qui fait que on a assisté avec sidération à des tentatives pour interdire des formes d'expression, interdictions qui viennent non pas de la droite ou de l'extrême droite, mais de l'extrême gauche. Et ça, c'est tout à fait nouveau et sidérant par rapport à la culture de la gauche d'il y a une génération ou deux.
Alors voilà, c'était Nathalie Aynic, sociologue, invitée de Questions du soir de Quentin Lafay en avril 2025. Elle est notamment la co-autrice de ce livre Face à l'obscurantisme woke, qui a défrayé la chronique et qui est finalement paru aux éditions PUF en avril 2025, à peu près au moment, même moment que vos livres à tous les deux. Quand vous entendez un discours comme celui de Nathalie Aynic, comment réagissez-vous, Anna Arzoumanov?
Alors tout d'abord, ce qui est frappant quand j'entends ce discours, c'est que on entend des mots tels que gauche radicale, cancel culture, et en même temps hérité d'Amérique du Nord, qui sont précisément les mêmes mots que l'on entend en Amérique du Nord dans la bouche d'un Donald Trump, hein, lorsqu'il fustige le wokisme. Donc on voit bien ici comment, donc alors que Nathalie Aynic reproche à ce qu'elle appelle la gauche radicale de reprendre une cancel culture qui vient d'Amérique du Nord, son argumentaire finalement vient aussi d'Amérique du Nord, me semble-t-il, ne serait-ce que dans les termes qu'elle utilise. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien sûr qu'il y a actuellement des mobilisations à gauche, et on ne peut pas les nier. Hein,
vous dites qu'il y a une multiplication des associations communautaires, dans le même temps qu'il y a une inflation des contentieux, donc ça pose problème quand même.
Alors est-ce que ça pose problème? C'est difficile de répondre comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain nombre de mobilisations que je n'aime pas nommer avec le terme de cancel culture, dans la mesure où c'est un terme qui suppose l'effacement. Et c'est très rare, en fait, qu'il y ait un effacement pur et simple. Je crois que c'est très important lorsqu'on décrit ce qui se passe dans ces tensions autour de la liberté d'expression, de savoir exactement de quoi on parle. Je vais prendre un exemple. Nathalie Aynic notamment parle très souvent d'une pièce qui aurait été effacée. Donc interdite à la Sorbonne, qui s'appelle la Sorbonne, qui est mon université, donc je suis bien placée pour en parler, qui s'appelle les suppliantes d'Eschyle, qui aurait été interdite à la suite d'une mobilisation d'associations de gauche, hein, dites progressistes, à la fois le CRAN, qui est donc une association de défense des Noirs, et puis c'était également une association étudiante. Donc si on prend cet exemple-là, qui est presque toujours cité en fait dans ce discours anti-woke, en réalité, il y a eu une mobilisation contre la pièce au motif que donc dans cette pièce, il y a un peuple noir qui était représenté par un jeu de masques, donc en l'occurrence des masques noirs, oui. En l'occurrence par des masques noirs. Et ce que reprochaient les associations étudiantes et notamment le CRAN, c'était ce qu'ils appelaient un blackface, hein, à savoir on n'a pas pris des acteurs noirs, on a préféré les grimer en noir pour représenter des noirs. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça, mais donc il y a eu un appel au boycott, une critique de la pièce qui a conduit à son annulation. Évidemment, c'est toujours quelque chose que l'on peut déplorer lorsqu'il y a une annulation, mais la pièce a été reprogrammée quelques semaines plus tard avec un changement de la part du metteur en scène qui a choisi un autre type de masque et donc qui a pris en compte. Donc vous voyez, là c'est typiquement un cas où je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de cancel culture. Il y a eu en fait une modification du propos du metteur en scène.
Alors l'idée, c'est de toute façon Nathalie Aynic qui n'est pas là pour vous répondre, hein, mais oui. L'idée n'est pas de revenir au cas par cas, parce qu'en plus dans votre livre Juger les mots, il y a un nombre incalculable de cas que vous étudiez et vous montrez bien à quel point Le travail difficile des juges, c'est justement d'étudier le cas par cas. Donc on pourrait les prendre un à un, mais on n'aura malheureusement pas le temps. En revanche, je voudrais vous poser la question suivante, Arnaud Esquéré, dans la suite de ce qu'on vient d'entendre. Dans la bouche de Nathalie Aynic et d'autres personnes qui pensent comme elle, l'idée, c'est que le politiquement correct, puis le wokisme, a remplacé ce qu'on appelait le censure. Comment expliquez-vous que autant de personnes se sentent aujourd'hui censurées, interdites, empêchées, pour reprendre les termes d'Anna Arzoumanoff, alors même que cette censure institutionnelle a disparu depuis un demi-siècle?
Tout à fait, c'est vraiment le paradoxe. Donc d'abord, il faut relever que ces personnes qui dénoncent la religion woke ou le totalitarisme woke ne sont pas du tout interdits de parole et prennent la parole très souvent. On les entend beaucoup, on vient de les entendre. Le deuxième élément, c'est qu'il faut voir l'importance qu'a pris la critique. C'est-à-dire que on ne peut pas à la fois dire il faut qu'il y ait davantage de critiques, qui est le fondement même de la démocratie, et puis en même temps, quand il y a cette prolifération de la critique, parce que tout le monde s'autorise à prendre la parole pour critiquer, dire mais il y a trop de critiques, qu'est-ce que c'est que toute cette critique, ça nous empêche en fait de nous exprimer.
Vous voulez dire on confond critique et censure?
On confond critique et censure, voilà. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est que le statut même de la critique et la prolifération de la critique, et ça c'est nouveau aussi, c'est une nouveauté, ça s'est modifié.
Quand des universitaires sont empêchés de parler par d'autres, ce qui a pu arriver, y compris en France, même si les cas sont rares, et c'est souvent les mêmes qui sont cités, c'est quand même arrivé, c'est pas juste de la critique et de l'autocensure.
Alors, vous avez des mobilisations qui peuvent être faites pour empêcher des gens de parler, mais si vous regardez d'un point de vue historique la manière dont ça s'est fait, je tiens à souligner que ce type de mobilisation, elle existe aussi à l'extrême droite et notamment dans la droite catholique. Je prendrai pour exemple historique le film Baise-moi de Virginie Despentes, pour lequel en fait il y a eu une action en justice qui a conduit à ce que le film au final en pratique soit interdit. On est au début des années 2000. Et puis vous avez ensuite eu tout un ensemble d'actions, alors par rapport au cinéma bien sûr, par rapport à des œuvres d'art, que ça soit des pièces de théâtre, je pense à Castellucci, ou que ça soit
c'était
peintures.
C'était quoi Castellucci?
C'était pareil, une mobilisation par rapport à un acte qui a été fait considéré comme christianophobe, en quelque sorte. Et puis, je pense à Miriam Kahn, une artiste qui a exposé au Palais de Tokyo, et sa peinture a été aspergée par quelqu'un qui était un ancien... en tout cas, c'était une contestation qui venait aussi de l'extrême droite. Et donc voilà, le paysage est beaucoup plus complexe que ce qui a été présenté, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, je voudrais dire sur la question de la censure, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez donc cette censure exercée par l'État a priori et par l'Église a posteriori, c'est-à-dire en condamnant le fait d'aller voir des films, qui va jusqu'à mai 68 et 74, en gros, quoi. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus de censure, le mot censure continue à être utilisé. Simplement, en fait, il change totalement de manière d'être utilisé. C'est-à-dire que jusqu'alors...
C'est plus les mêmes censeurs, quoi.
Ben, jusqu'alors, en fait, vous aviez des gens qui assumaient le fait d'être censeurs. Et tout d'un coup, en fait, ces gens-là disparaissent. Il n'y a plus de commission de censure, c'est-à-dire qui utilisent le mot. Cet usage restreint en quelque sorte et assumé du mot censure ayant disparu, on continue à utiliser le terme mais d'une manière totalement différente, c'est-à-dire en accusant l'autre de censure. Et donc c'est pour ça que c'est un geste inverse en réalité et que j'appelle ça censure accusatoire, parce que c'est toujours sous forme d'accusation qui s'adresse à l'autre pour quelqu'un qui fait en général de la critique, une sélection, des choix... et qui sont accusés d'être des censures.
Là, on en revient d'ailleurs aux États-Unis, Anna Arzoumanoff, et à ce discours de J.D. Vance, au discours d'Elon Musk, nous reprochant une liberté d'expression très faible, d'ailleurs une liberté d'expression qui interdit trop de choses selon les critères américains. Ça, c'est des discours aussi de l'année, tout récent, donc on voit bien une espèce d'accentuation et de retournement des mots. Ça, c'est très important pour toute la semaine, ce détournement, retournement des mots.
Oui, J.D. Vance est venu en Europe en février. Et à ce moment-là, il a en effet dit, donc c'était à Munich, que les Européens avaient un problème avec la liberté d'expression. Et donc, on voit bien ici que ce qu'il visait, c'est précisément la limitation de la liberté d'expression en France. Et il disait que en Europe, on n'aimait pas les opinions contradictoires. Et donc, on censurait tout ce qui était contraire à ce qu'on pensait. Hein. Donc, c'est ce qu'a dit J.D. Vance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je pense qu'on peut citer le politologue Denis Ramon, qui avait déjà expliqué dans un livre qui s'appelle La Baffe du crapaud, qui est sorti il y a quelques années, qu'il y avait eu une sorte de récit de la liberté d'expression qui avait en quelque sorte déraillé. C'est comme ça qu'il le formulait à l'époque. Hein. Donc il expliquait que la liberté d'expression au départ est une valeur progressiste, une valeur de la démocratie, et que désormais, mais comme la notion d'état de droit, comme un certain nombre de notions, sont récupérées actuellement par l'extrême droite pour justifier une censure. Donc en fait, si on prend l'exemple des États-Unis, je vais être rapide sur ce point-là, mais on voit bien que c'est au nom de la lutte contre le wokisme actuellement qu'on a une attaque de la science sans précédent, où il s'agit notamment de ne pas financer un certain nombre de projets dans lesquels il y a des mots interdits. Et là, c'est vraiment les mots qui sont interdits. Par exemple, le mot de sociologie. À un moment, le mot de femme était même interdit. Donc, il y a eu évidemment des retours en arrière. Mais là, ça fonctionne à partir de listes de mots. Et paradoxalement, c'est au nom de la liberté d'expression qu'on restreint la liberté d'expression. Donc, on voit bien cette inversion et donc cette sorte de déraillement de la liberté d'expression. Thomas Hockmann aussi, le juriste, parle de grand détournement de la liberté d'expression. Donc, je crois que c'est assez parlant, en fait, comme formule pour désigner.
Oui, mais...
Voici donc un tuto, une méthode. Hein. La liberté d'expression pour les nuls ou pour les personnalités autoritaires. C'est une méthode simple en deux volets. Premier volet, Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien est emprisonné pour un motif évidemment bidon. Ses propos déplaisent à la dictature algérienne. Il est par ailleurs la victime collatérale de la mésentente entre la France et l'Algérie. On a pu entendre dire que c'était pas si grave que Sansal soit emprisonné parce qu'il était de droite ou d'extrême droite. Ou bien encore que ce n'était pas bien de l'emprisonner, mais... Alors non, la liberté d'expression, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Soit on est libre de ses propos, soit on est aliéné, pour le dire autrement, en dehors de la loi. Il n'y a pas de « oui mais » à la liberté d'expression. Second volet, Maboula Soumaoro, maître de conférence à l'université de Tours, elle était invitée à prendre la parole au Parlement européen. Elle a été débranchée sous l'amicale pression de députés d'extrême droite parce qu'elle a été accusée de racisme anti-blanc. On a pu entendre dire que c'était pas si grave que Maboula Soumaoro soit empêchée de parler parce qu'elle était de gauche ou d'extrême gauche, ou bien encore que ce n'était pas bien, mais... Alors non, la liberté d'expression, ça ne fonctionne toujours pas comme ça. Mais voilà, de plus en plus souvent, les régimes autoritaires ou les personnalités autoritaires confondent liberté d'expression et liberté de leur expression.
C'était le camarade Guillaume Erner, un matin de novembre 2024 sur cette chaîne, évidemment. Anna Arzoumanoff, Arnaud Esquéré, ce « oui, mais », qu'est-ce que vous en dites?
Je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien ici une liberté d'expression à deux vitesses ou à géométrie variable. C'est ça qui est désigné. C'est-à-dire que on est toujours du côté de la liberté d'expression quand c'est pour notre camp. Mais en effet, quand il s'agit d'évoquer le camp adverse, ça ne pose pas de problème. Donc évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va défendre ici. Il y a bien des tensions autour de la liberté d'expression. Mais en fait, comme c'est une valeur uniquement positive, on ne peut pas être contre la liberté d'expression. En revanche, du coup, on ne parlera pas forcément de liberté d'expression pour le camp adverse ou de censure. On va essayer de trouver d'autres mots pour justifier, en fait, la restriction de la parole si c'est le camp adverse.
Arnaud, est-ce qu'il n'y aurait pas de oui, mais à la liberté d'expression?
Non, mais il n'y a jamais de liberté d'expression qui soit illimitée. Ça n'existe pas dans aucun État. Il y a toujours des limites à la liberté d'expression pour une raison qui est que il y a un endroit où, en contexte, un acte de parole peut devenir un acte de violence et conduire à la haine et au meurtre d'une personne, par exemple. Donc, en fait, les limites, une des grandes limites, elle est justifiée par le fait d'éviter la violence et comme on l'a dit déjà tout à l'heure, il faut toujours juger au cas par cas. Si vous dites « mort aux extraterrestres », alors qu'il n'y a pas d'extraterrestres ici, eh bien, on ne menace pas la vie des extraterrestres. Donc il y a toujours des limites, mais ce qu'il faut voir, c'est que en même temps, il faut défendre la situation dans laquelle on est, qui est une situation de grande liberté d'expression historiquement, avec cette possibilité de prendre la parole pour chacune et chacun qui n'a jamais été aussi importante. Et c'est fragile parce que c'est toujours menacé de l'intérieur. En fait, c'est toujours le problème de la liberté d'expression, c'est que elle crée sa propre fragilité.
Anna Arzoumanoff, est-ce que notre principe, notre liberté fondamentale, notre valeur républicaine est encore adaptée à notre époque, ou est-ce qu'il faut repousser les limites du fait du contexte dans lequel nous sommes?
Alors, c'est une question vraiment complexe.
Je vous avoue
que je n'ai pas forcément de réponse à vous donner qui soit vraiment tranchée. Je crois qu'on a une législation qui est plutôt bien faite et des juges qui prennent le temps de juger donc au cas par cas, comme on disait. Donc j'aurais tendance à dire évitons l'inflation législative. Ça fonctionne depuis 1881 avec quelques adaptations, et puis on voit bien que les juges adaptent leurs critères aux contentieux qui se présentent. Donc j'aurais plutôt tendance à dire non, ne changeons rien en tout cas à notre législation.
Il y a un point qui, si vous voulez, qui est tout à fait inédit comme situation, et dans une autre enceinte, on en parlait avec la présidente de la 17e chambre justement qui l'évoquait, c'est le fait de savoir si on prend la parole de manière anonyme sous pseudonyme ou si on prend la parole sous son nom d'état civil, parce qu'on ne dit pas la même chose. Et ça, si vous voulez, au 18e siècle, il pouvait y avoir des pamphlets ou des libelles qui étaient publiés de manière anonyme, qui étaient d'ailleurs très à l'étranger, qui étaient très violent, mais c'était très marginal. C'était une poignée de personnes qui publiaient cette parole pamphlétaire. Aujourd'hui, cette possibilité de prendre la parole de manière anonyme ou sous pseudonyme, elle est beaucoup plus grande et elle modifie quand même quelque chose à la manière dont on s'exprime dans l'espace public, et elle autorise une critique qui est beaucoup plus agressive qu'on ne l'est quand on s'exprime en face à face comme nous le faisons maintenant.
En un mot, tous les deux en un mot, comment, selon vous, apaiser les tensions? Quels sont les prérequis pour que ces débats retombent un peu? Anna Arzoumanoff.
Moi, j'aurais tendance à défendre le droit et à regarder comment ces affaires sont jugées au tribunal, parce que c'est l'endroit où on prend le temps, en fait, où on essaie de sortir de l'émotion. Et donc voilà, et mieux expliquer le droit. Je crois que c'est très important aussi pour qu'on comprenne ce que c'est que notre liberté d'expression, pourquoi on peut oui, c'est un peu long, c'est plus d'un mot, donc je m'arrête.
C'est surtout très très bien fait dans votre livre, Juger les mots. Arnaud Esquire, en un mot.
Moi, j'aurais tendance à défendre la nuance, comme on l'a fait sur ce plateau pendant toute l'émission.
L'institutionnalisation de la manifestation spontanée est une démarche transgressive pour les esprits égarés. C'est pourquoi nous demandons la dématérialisation des procédures pénales pour les obscénités, l'ivresse publique et les jeux de mots douteux. Nous demandons le droit à la calomnie et interdirons tous les discours d'ordre sanitaire et esthétique. Quiconque aura envie pourra écrire sur les murs des mots d'amour parlant d'amour, des mots d'amour parlant de murs et autres fruits défendus plus ou moins mûrs, même sur les murs où poussent des murs. L'envie d'écrire le prénom de l'autre sur un mur de pierre, même s'il s'appelle Pierre, sera bien sûr autorisé. À ce moment-là, nous demanderons et obtiendrons une liberté totale d'expression murale.
C'était San Severino, avec lequel on se quitte sur cette liberté d'expression murale, pourquoi pas, finalement. Merci à vous deux, Arnaud Esquire, et à vous, Anna Arzoumanoff. Ces rencontres de Pétrarque toute la semaine ont été préparées avec l'aide précieuse de Diane Devancet et réalisées par Assia Weber. Merci aux équipes du festival et à celles de Radio France. On se retrouve demain pour parler du langage politique. À demain.